Le livre de Daniel, numéro 4, 27.
La triple application d'Élie. Dévoilement des dynamiques prophétiques de la confrontation de la Babylone moderne.
La triple application d'Élie représente les éléments extérieurs de l'Élie des derniers jours. Élie représente un homme, mais aussi un mouvement de personnes. Le mouvement de personnes qui se joignent au messager Élie est tiré hors de la condition et de l'expérience représentée par l'ADC.
Et Élie vint vers tout le peuple et dit « Jusqu'à quand serez-vous partagés entre deux opinions ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple « Moi seul, je reste prophète du Seigneur. Mais les prophètes de Baal sont 450 hommes. » 1 Roi 18, 21, 22.
Que ce soit dans le mouvement du premier ou du troisième ange, ceux qui se joignaient aux messagers de cette période étaient tirés soit de l'histoire, représentée par l'église de Sardes, soit de celle représentée par l'église de Laodicée. Chacune de ces églises est représentée par la question d'Élie, à savoir « Jusqu'à quand le peuple hésitera-t-il entre deux opinions ?» Les deux opinions entre lesquelles ils hésitent sont représentées par le débat d'Habacuc. Le débat du chapitre 2 d'Habacuc est un débat entre une méthodologie correcte et une méthodologie incorrecte. Les gens qui existent lorsque vient le temps du débat, que ce soit dans l'histoire millérite ou dans celle des derniers jours, ne savent pas s'ils doivent se décider. Et, si oui, de quel côté se ranger? Ils ne répondent donc pas un mot.
Le Seigneur a ordonné une épreuve dans l'histoire du premier ange et dans celle du troisième, qui devait manifester si c'était le camp représenté par la méthodologie théologique du protestantisme apostat ou la méthodologie fondée sur les règles d'interprétation prophétique de Miller, y compris les règles adaptées par Future for America, qui constituaient le véritable message de la pluie de l'arrière-saison. L'épreuve du Mont Carmel, qui doit commencer avec la prochoie du dimanche aux États-Unis, exige que Dieu désigne qui est son messager représentant, comme il l'a fait avec Élie et dans l'histoire millérite de 1844. Quand pour Élie et pour ceux qui observaient mais refusaient de prendre position, la méthodologie a été et sera confirmée par l'accomplissement de prédictions publiques.
Les prophéties de Daniel et de Jean doivent être comprises. Elles s'interprètent l'une l'autre. Elles donnent au monde des vérités que chacun devrait comprendre. Ces prophéties doivent témoigner dans le monde. Par leur accomplissement en ces derniers jours, elles s'expliqueront d'elles-mêmes. Collection Cresse, 105.
Quand le feu descendit et consuma l'offrande d'Élie, Dieu confirmait à ceux qui ruguaient en silence qu'Élie était son représentant. Mais il était alors trop tard pour Achab, Jézabel et ses faux prophètes. Cela s'est également produit avant le 22 octobre 1844 dans l'histoire millérite, et cela se reproduira avant la loi du dimanche imminente, qui est préfigurée par le 22 octobre 1744. Malheureusement, ceux qui attendront cet événement pour se décider auront par défaut déjà choisi le mauvais camp. Le choix du messager d'Élie doit précéder sa confrontation avec Achab, Jézabel et ses faux prophètes. Après que la confirmation eut été accomplie par le feu qui consuma l'offrande d'Élie, Élie mit à mort les faux prophètes.
Le faux prophète est le sixième royaume de la prophétie biblique, et il met fin à son règne en tant que sixième royaume au moment de la loi du dimanche imminente, où Élie a mis à mort les faux prophètes. Par la suite, la pleine effusion de la pluie a commencé. Dans l'histoire millérite, le messager et son message ont été identifiés par contraste avec ceux qui, dans ce contexte, ont commencé à remplir leur rôle en tant que protestantisme apostat, qui est le faux prophète du témoignage d'Élie, et comme l'une des trois puissances qui mènent le monde à Armageddon. Dieu a ordonné qu'après le 22 octobre 1844, le mouvement prophétique véritable nouvellement identifié achèverait son œuvre sur la terre. Mais le mouvement est passé à la Odyssée et, peu après, a cessé d'être un mouvement, parce qu'il est devenu une église légalement reconnue.
Avec ces éléments du premier Élie à l'esprit, nous allons maintenant aborder les caractéristiques prophétiques du deuxième Élie, afin d'identifier et d'établir qui est le troisième Élie des derniers jours. Jésus a identifié Jean-Baptiste comme celui qui a accompli la dernière prophétie de l'Ancien Testament.
Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Et il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, 5, 6.
Bien que Jésus ait désigné Jean comme l'Élie qui devait venir, Jean n'a pas pleinement satisfait à tous les éléments de la prophétie concernant l'Élie à venir, car le troisième et dernier Élie vient avant le grand et redoutable jour du Seigneur, qui est le temps des sept dernières plaies, lesquelles s'achèvent avec le second avènement du Christ. Jean était néanmoins le second Élie, et son témoignage, combiné à celui du premier Élie, identifie et établit le troisième et dernier Élie.
De même qu'Élie a affronté une triple représentation du dragon, de la bête et du faux prophète de la Babylone moderne, de même Jean fut confronté à une autorité romaine, Hérode, à une femme impure, Hérodiade, et à sa fille, Salomé. Le mont Carmel préfigurait le 22 octobre 1844, qui, à son tour, représente la loi du dimanche aux États-Unis. Lors de la crise de la loi du dimanche, l'union tripartite se met en place.
Par le décret imposant l'institution de la papauté en violation de la loi de Dieu, notre nation se séparera entièrement de la justice. Lorsque le protestantisme tendra la main par-dessus le gouffre pour saisir la main de la puissance romaine, lorsqu'il se penchera au-dessus de l'abîme pour s'unir au spiritisme, lorsque, sous l'influence de cette triple union, notre pays répudiera tout principe de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain et prendra des dispositions pour la propagation des faussetés et des séductions papales, alors nous pourrons savoir que le temps est venu pour l'œuvre prodigieuse de Satan et que la fin est proche. Testimonie, volume 5, 450.
Dans le récit d'Hérode, nous constatons qu'en tant que représentant de la Rome païenne, il représente les 10 rois de la Rome païenne et symbolise donc les 10 rois du chapitre 17 de l'Apocalypse, qui donnent leur royaume à la prostituée pour une heure. Hérode était préfiguré par Achab. Tous deux étaient engagés dans des mariages illicites. Achab, qui était d'Israël, n'avait pas le droit d'épouser une femme qui n'était pas israélite, et Hérode avait épousé la femme de son frère. La fornication de la prostituée de Tyr et de Babylone avec les rois de la terre était écrastée par les relations illicites d'Achab et d'Hérode avec Jézabel et Hérodiade. La confrontation au mont Carmel avec Achab a été représentée comme une fête d'anniversaire pour Hérode. Au moment de la loi du dimanche, les États-Unis cessent d'être le sixième royaume de la prophétie biblique et les 10 rois deviennent le septième royaume. Lors de leur anniversaire en tant que septième royaume, Hérode, lors d'un banquet d'ivresse, consent à donner jusqu'à la moitié de son royaume à Salomé, la fille d'Hérodiade. Les 10 rois acceptent de donner le royaume à la bête, et ils le font car ils ont été trompés par le faux prophète, les États-Unis, et sont spirituellement ivres. À Mont Carmel, les faux prophètes dansèrent toute la journée pour tromper. Et, à la fête d'anniversaire d'Hérode, Salomé, la fille d'Hérodiade, exécuta une danse pour tromper le roi ivre. Ce faisant, la fille d'Hérodiade obtint d'Achab l'autorité de faire tuer Jean-Baptiste. Au moment de la loi dominicale aux États-Unis, les États-Unis trompota le monde entier pour lui faire accepter une image mondiale de la bête qui consiste en un royaume composé pour moitié de pouvoir religieux et pour moitié de pouvoir civil. La tromperie du monde par les États-Unis, qui sont le faux prophète de la triple union, a été préfigurée par la danse des prophètes de Jézabel et celle de la fille de Jézabel, Salomé. Car Jézabel est le catholicisme et le protestantisme apostat et ses filles comme Salomé. La persécution commence avec la loi du dimanche imminente, qui implique la mort, comme le représente la tête du second Élie, tranchée et placée dans un panier pour la papauté, représentée par Hérodiade. À ce moment-là, la blessure mortelle de la papauté est complètement guérie, elle n'est plus oubliée, et la pluie de arrière-saison est répandue sans mesure, tandis que l'étendard des 144 000 est élevé. À ce moment-là, l'islam du troisième malheur frappe et le jugement progressif de la grande prostituée assise sur de grandes eaux commence. Son jugement est doublé.
Et j'entendis du ciel une autre voix, disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, versez-lui au double. » Apocalypse 18:4-6.
Sa condamnation est doublée, car elle n'a pas encore été jugée pour les meurtres qu'elle a perpétrés pendant l'âge des ténèbres, de l'an 538 jusqu'en 1798. Au cinquième sceau, ceux que la papauté avait assassinés sont symboliquement représentés sous l'autel, demandant quand Dieu jugerait la prostituée de Rome. Et il leur est dit de se reposer dans leur tombe jusqu'à ce qu'un second groupe de martyrs, qui doit être assassiné comme eux l'avaient été, soit constitué. Quand son jugement viendra, il sera doublé, car elle aura assassiné à deux reprises le peuple fidèle de Dieu.
Et lorsqu'il eut ouvert le cinquième sceau, je vis, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils maintenaient. Ils crièrent d'une voix forte : « Jusqu'à quand, Seigneur, saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre ?» Il fut donné à chacun d'eux une robe blanche, et il leur fut dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être tués comme eux soit complet. Apocalypse 6, 9 et 11.
Sir White situe le passage des martyrs du cinquième sceau au moment de la loi du dimanche, où les autres brebis de Dieu sont appelées à sortir de Babylone, ce qui est la fête d'anniversaire d'Hérode, lorsque les 10 rois conviennent de donner leur 7e royaume au 8e royaume, qui est du nombre des 7.
Lorsque le 5e sceau fut ouvert, Jean, le révélateur, vit en vision, sous l'autel, le groupe de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Après cela, survinrent les scènes décrites au 18e chapitre de l'Apocalypse, lorsque ceux qui sont fidèles et véritables sont appelés à sortir de Babylone. Apocalypse 18:1-5, cité. Manuscript Release, volume 20, 14.
Ceux qui sont appelés à sortir de Babylone constituent le deuxième groupe de martyrs, mis à mort par la papauté comme Hérodiade l'a fait au deuxième Élie. Sir White place également le cinquième sceau à l'ouverture du dernier sceau.
Et lorsqu'il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte, disant : Jusqu'à quand, Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre ? Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ils furent déclarés purs et saints. Et il leur fut dit qu'ils se reposent encore un peu, de temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être tués comme eux. Apocalypse 6, 89, 11. Ici, des scènes furent présentées à Jean, non pas comme une réalité présente, mais comme ce qui devait advenir à une époque future.
Apocalypse 8, 1-4, cité. Manuscript Releases, volume 20, 19-7.
Les prières de ceux que la papauté a assassinés pendant les âges sombres sont rappelées lors de l'ouverture du septième sceau, ce qui indique que le septième sceau est ouvert au moment de la loi dominicale imminente, car c'est là que Dieu se souvient de ses iniquités.
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, versez-lui le double. Apocalypse 18, 4, 6.
Le premier Élie rend témoignage de la confrontation qui a lieu entre les 144 000 et la triple union qui conduit le monde vers Armageddon dans les derniers jours. Le deuxième Élie, Jean-Baptiste, répète et élargit le témoignage du premier Élie et ensemble, ligne sur ligne, ils identifient et établissent les caractéristiques prophétiques du troisième et dernier Élie. Le troisième Élie est représenté par un Élie du commencement, mille heures, et un Élie de la fin, car le mouvement du premier ange se répète dans le mouvement du troisième ange.
Dieu a donné au message d'Apocalypse 14 leur place dans la ligne de la prophétie, et leur œuvre ne doit pas cesser jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Les messages du premier et du deuxième ange demeurent la vérité pour ce temps, et doivent aller de pair avec celui qui suit. Les documents de 1888, 803. 804.
Le troisième Élie porte la signature de l'alpha et de l'oméga, car il représente un Élie du commencement et de la fin. Le premier comme le dernier Élie représente un mouvement, soit du premier, soit du troisième ange d'Apocalypse 14.
L'œuvre de Jean-Baptiste est l'œuvre de ceux qui, dans les derniers jours, s'avancent avec l'esprit et la puissance d'Élie pour tirer le peuple de son apathie, sont à bien des égards identiques. Son œuvre est une figure de l'œuvre qui doit être accomplie en ce temps. Christ doit venir une seconde fois pour juger le monde avec justice. Les messagers de Dieu qui portent le dernier message d'avertissement devant être donné au monde doivent préparer le chemin pour le second avènement du Christ, comme Jean prépara le chemin pour son premier avènement. Dans cette œuvre préparatoire, toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis, car l'histoire doit se répéter et de nouveau, la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche de l'Éternel a parlé. Southern Watchman, 21 mars 1905.
La triple application d'Élie représente la confrontation opposant Élie et le mouvement qui lui est associé à la triple union de la Babylone moderne. Elle est étroitement liée à la triple application du messager qui prépare le chemin pour le messager de l'Alliance. Mais cette ligne représente la dynamique interne du mouvement et du messager. Dans les deux triples applications, le troisième et dernier accomplissement, tant du messager que du mouvement, est représenté par Alpha et Oméga, symbolisant un accomplissement initial et un accomplissement final. Le troisième et dernier Élie représente le mouvement du troisième ange, qui est le mouvement des 144 000, lesquels seront élevés comme un étendard pour appeler la grande multitude à sortir de Babylone lorsque viendra l'heure du grand tremblement de terre d'Apocalypse 11. Avant cette heure, le messager et le mouvement seront identifiés en contraste avec le mouvement contrefait qui présente un faux message de pluie tardive, prônant la paix et la sécurité. Les distinctions entre le vrai et le faux, tant du message que du messager, se reconnaissent à l'accomplissement du message. Ces articles ont débuté à la fin juillet 2023, et bien avant le massacre du 7 octobre, ils indiquaient que le véritable message de la pluie de l'arrière-saison identifie l'islam du troisième malheur, et que ce message a commencé le 11 septembre 2001. Les articles affirmaient que l'irritation des nations, qui a commencé à ce moment-là, selon l'inspiration, était comme les douleurs d'une femme en travail, et que par conséquent, l'irritation et les troubles infligés à la planète Terre continueraient de s'intensifier jusqu'à la fin du temps de grâce. Nous poursuivrons l'étude dans notre prochain article.
Oh ! Si le peuple de Dieu avait conscience de la destruction imminente de milliers de villes, aujourd'hui presque livrées à l'idolâtrie, mais beaucoup de ceux qui devraient proclamer la vérité accusent et condamnent leurs frères. Lorsque la puissance convertissante de Dieu saisira les esprits, il se produira un changement décisif. Les hommes n'auront aucune inclination à critiquer et à démolir. Ils ne se placeront pas dans une posture qui empêche la lumière de rayonner vers le monde. Leurs critiques, leurs accusations cesseront. Les puissances de l'ennemi se rassemblent pour la bataille. De rudes conflits sont devant nous. Resserrez les rangs, mes frères et sœurs. Resserrez les rangs. Attachez-vous au Christ. Ne dites pas « une conjuration ». Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. Sanctifiez l'Éternel des armées lui-même, et qu'il soit votre crainte et qu'il soit votre effroi. Et il sera un sanctuaire, mais une tierce d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Et beaucoup parmi eux trébucheront, tomberont, se briseront, seront pris au piège et saisis. Le monde est un théâtre. Les acteurs, ses habitants, se préparent à jouer leur rôle dans le dernier grand drame. Dieu est perdu de vue. Au sein des grandes masses de l'humanité, il n'y a pas d'unité, sinon lorsque les hommes se liguent pour accomplir leurs desseins égoïstes. Dieu observe. Ses desseins à l'égard de ses sujets rebelles s'accompliront. Le monde n'a pas été livré entre les mains des hommes, bien que Dieu permette aux éléments de confusion et de désordre de dominer pour un temps. Une puissance d'en bas agit pour amener les dernières grandes scènes du drame. Satan se présentant comme le Christ, et opérant avec toute la séduction de l'injustice chez ceux qui se lient ensemble au sein de sociétés secrètes. Ceux qui cèdent à la passion de la Confédération mettent à exécution les plans de l'ennemi. L'effet suivra la cause. La transgression a presque atteint sa limite. La confusion règne dans le monde et une grande terreur va bientôt s'abattre sur les êtres humains. La fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité devrions nous préparer à ce qui ne tardera pas à fondre sur le monde comme une surprise foudroyante. Rivi and Herald, 10 septembre 1903.